Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Hello, hello, bienvenue à La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi 13h-13h30, le petit tour des scènes, des spectacles vivants qui ont lieu à Bruxelles. Alors j'ai à mes côtés Nicolas. Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Et alors les créations reprennent tout doucement. On ira du côté du Varia, dans la petite salle, pour voir Occident de Rémi DeVos, mis en scène par Frédéric Dussen. De l'Occident, on ira à New York, New York de Dominique Breda au Richclair. Enfin, on ira plutôt dans les champs ou dans la solitude des champs avec les trois solos de Karine Pontiès sur la figure de l'épouvantail. Et enfin, on ira faire un tour du côté de Trouble, Trouble, festival de la performance des Halles de Scarbé qui commence ce soir jusqu'au 1er mai. Une trentaine de propositions sur le thème de la métamorphose de soi. Mais là, je me retourne directement vers Nicolas qui est parti voir pour nous cet Occident de Rémi DeVos.
Oui, c'est au Petit Varia, mais attention, c'est pour le rideau, hein, le rideau qui se balade maintenant. La dernière fois qu'on avait laissé le rideau, c'était sur Antilope, vous vous rappelez, hein, sur Henning Mankell, avec un discours sur le couple et sur l'Afrique. Hein, vous vous rappelez, hein, ce double discours. Eh bien, on est dans la suite ici, c'est vraiment dans la continuité. On est encore face à un couple et qui parle encore des relations entre les peuples, nord-sud, mais ça se passe en Occident, c'est-à-dire chez nous, voilà. Bon, bien qu'on soit l'Occident, un peu toujours l'Occident de quelqu'un, hein, voilà, donc comment ça se passe. C'est Rémi DeVos, l'auteur qui a été convié ici pour ce spectacle Occident, un auteur français qui a écrit ce texte en 2005. Il avait écrit autre chose, c'était André le Magnifique qui a eu obtenu plusieurs Molières en France, donc il a une belle reconnaissance et c'est vraiment un auteur contemporain assez apprécié, né dans les années 60. Et c'est Frédéric Dussen, donc, qui s'empare de ce texte, alors que c'était Christophe Sermé qui s'occupait d'Antilope. Ben, les deux artistes associés, comme ça, se partagent ce diptyque. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un couple, donc, qui va mal. Ce serait pas drôle, sinon.
Voilà, il y a que ça qui intéresse au théâtre, hein, ce qui va mal.
Alors, on se rend compte que c'est une femme un peu délaissée, quand même, chez elle, par son mari, qui préfère aller passer ses soirées dans les bars, plutôt que d'être à côté de sa femme. Et il est, évidemment, soumis à un certain alcoolisme, puisqu'il rentre à chaque fois bourré. Et les seuls mots qui s'échangent entre mari et femme sont souvent des insultes. Ivrogne, et j'en passe des meilleurs pour la femme qui apparemment passe ses journées aussi, elle les remplit avec d'autres hommes, on va dire comme ça, ou en tout cas c'est ce qu'elle dit à son mari, hein, pour le rendre un petit peu jaloux. Alors outre cette discussion un peu tendue entre les deux, il y a un autre sujet qui intervient, c'est que l'homme, au départ, il va dans un bar avec son ami Mohamed, un arabe, et ils ont un problème dans le bar où ils vont d'habitude, puis s'ils rencontrent des Yougoslaves, il y a une bagarre, et donc Mohamed doit aller à l'hôpital, et du coup, eh bien, comme il a plus son ami Mohamed, il va dans un autre bar qui s'appelle le Flandre, où il y a des bons Français. Vous voyez, hein, tout le jeu qu'il y a là-dessus. Et le mari commence alors à changer, à se transformer, à aller vers des idéaux un petit peu plus extrémistes de droite, puisque au Flandre, où il y a les bons Français, on n'aime pas trop que ce soit les Arabes, les Yougoslaves, on aime le bon. La bonne race,
c'est
des fascistes, c'est des fachos.
Peut-être pas des idéaux, mais c'est
leurs idéaux, en tout cas.
C'est un bar
fasciste. Voilà, c'est leurs idées. Et la femme est un peu étonnée de voir son mari aussi évoluer comme ça. Donc, il y a un questionnement comme ça, puisque la scène, en fait, est rythmée par les soirées où le mari rentre du fameux bar et où elle le questionne. Mais c'est un peu un dialogue de sourds, puisqu'il se répète toujours la même chose. On essaie de comprendre pourquoi le mari fait ça, mais il ne raconte que... vraiment le programme du Front National et ça n'avance pas, donc il y a vraiment un dialogue de sourds entre les deux et voilà.
Mais les scènes du bar ne sont pas sur scène.
Non. pas du tout.
C'est dans le retour à la maison. Ben,
il raconte parfois certaines choses qui se passent au bar, notamment les bagarres ou voilà. Donc c'est cette montée en puissance de jour en jour, puisque les jours sont indiqués et rythment vraiment sur le fond de la scène. Une scène qui est coupée en fait par une espèce de rideau de douche là, comme ça, qui s'ouvre et qui se ferme de part et d'autre pour faire les entrées et les sorties tout simplement de scène.
Et alors Frédéric Dussène a toujours des mises en scène très, très sobres, très retenues, parce que voilà, on en parlait hors antenne, ce Occident avait été donné justement avec Georges Ligny aux U de théâtre et c'était un truc un peu plus rentre-dedans. Comment gère ce rentre-dedans qui est dans la pièce Frédéric Dussène?
Alors il y a un traitement peut-être moins en trip, je n'ai pas vu ce que Ligny avait fait, mais peut-être moins en trip de ce que fait Georges Ligny. C'est beaucoup plus, peut-être un petit peu plus relâché, plus léger, oserais-je dire, et un peu plus dans le vaudeville, quoi, parce que il n'y a pas les claquements de porte, mais il y a les rideaux qui s'ouvrent et qui s'ouvrent.
Mais dans la violence, est-ce que, parce qu'ils s'engueulent, ils s'insultent.
Mais c'est du dialogue, c'est des flèches qui se lancent chacun, et du tac au tac, quoi.
Est-ce que ça gueule?
Non, ça ne gueule pas, pas énormément, du moins, c'est un ton normal, mais on sent qu'il y a quand même une certaine noirceur, une certaine rancœur entre les deux, et c'est de la violence, quoi. J'ai dire, les insultes volent allègrement dans cet échange. C'est un bon texte parce qu'il est répétitif avec des boucles comme ça qui reviennent tout le temps. Comme c'est un dialogue de sourds, évidemment, on tourne toujours au même de la même dizaine de mots, j'ai envie de dire, mais c'est tellement fort et tellement prenant et tellement rythmé qu'on arrive à rentrer dedans. Alors, petit ajout de Frédéric Dussène, c'est que les pensées du mari sont transposées avec des chansons de Michel Sardou.
Michel Sardou, version droite.
De toute façon, est-ce qu'il a été de gauche, je ne sais pas, mais je ne crois pas, vraiment pas. Avec des chansons qu'on n'oserait plus passer en radio aujourd'hui, parce que c'est évidemment, ça transpire un petit peu une droite malsaine. Et c'est Philippe Josette qui interprète ça dans des moments, comme ça, dans des petites pauses.
Dans des arrêts sur image, ça danse ou ça chante?
Il danse, oui, mais il n'y a pas de, on va pas dire de chorégraphie, mais...
Et c'est des moments calmes, sans texte.
Oui, il fait comme s'il était chanteur devant la scène, quoi, avec un micro, un pied, et c'est assez...
En playback.
Et c'est drôle, évidemment.
Et alors, il y a, comme tu le dis, Josette, donc deux bêtes de scène pour ce spectacle.
Et Valérie Beauchaud, donc j'ai oublié de la citer. Alors, elle, évidemment, le texte ne lui est pas aussi extravertie, puisque elle est cette femme un peu renfermée et qui ne fait qu'insulter son mari, etc., etc. Mais ils sont très bien tous les deux. C'est le texte qui permet à Josette peut-être de sortir plus de choses et d'être un peu plus massif sur scène.
C'est lui qui part et qui revient.
Ah ben
c'est
oui,
lui qui
oui,
vit
oui.
Les histoires.
Et
dans
elle,
le
elle
café.
Est un peu debauchée, comme on dit chez moi. Elle attend son mari à la maison, tout simplement.
Est-ce que par rapport aux Zut, est-ce qu'il y a une décadence sur scène? Est-ce qu'on voit, par exemple, tu avais vu aux poches justement cette famille décadente, est-ce qu'on est dans ce style?
Alors c'est intéressant parce que Josette interprétait encore un alcoolique dans le projet HLA, aux poches, voilà. Alors ici, il y a une décadence, pas dans les vêtements, ni dans l'attitude.
Ni dans la mise en scène, ça part pas en couille
au niveau
concret.
Non, voilà. Y a une petite astuce à la fin, mais c'est pas marquant.
C'est
très retenu.
Frédéric Dussène fait toujours des choses très...
Donc c'était une très bonne chose, un spectacle assez ramassé, à mon avis un peu plus d'une heure, et c'est très bien. Voilà.
J'irai voir Varia. Un bon texte.
C'est à voir jusqu'au 14 mai, donc le rideau qui s'invite au Petit Varia, je crois que c'est le dernier spectacle de la saison pour le rideau, on arrive en fin de saison, et tous les renseignements sur www.rideaudebruxelles.be et les réservations au 02 507 83 61.
Occident de Rémi Devos, un très bon texte mis en scène par Frédéric Dussène au Varia. Moi, je vous emmène au Tanneur pour Karine Pontiès, la chorégraphe qui est en résidence administrative au Tanneur et qui nous avait donné un premier spectacle, Humus Vertebra, sur le thème, pas si curieux que ça, de l'épouvantail. Ça peut inspirer un chorégraphe, justement, ces faux hommes qu'on voit à travers champs pour effrayer les oiseaux. Ça avait inspiré Karine Pontiès pour Humus Vertebra. Et dans cette création d'Humus Vertebra, elle avait justement travaillé sur trois solos séparés, voire un peu des formes, travailler l'épouvantail en tout cas de trois manières différentes. Et c'est ces solos-là qui ont été repris à l'étranger. Elles fonctionnent très bien à l'Est, Karine Pontiès, qui sont mis ici au Tanneur, l'un à la suite de l'autre. C'est une petite heure qui enchaîne ces trois solos un peu peu de manque de fluidité parce qu'on applaudit à chaque solo, donc ça fait un peu prestation, mais on rentre terriblement dans un voyage et dans un univers. Moi, j'ai eu l'impression que Karine Pontiès nous emmenait dans un sentier très, très reculé de la Terre. On sort des villes, on va dans le plus profond où on voit des personnages. Alors, les titres sont aussi bien choisis. On commence par Babil, où un homme use de mots, il est à terre, il essaye de se lever, c'est l'épouvantail qui essaye un peu de se ramasser et de lutter contre ses jambes qui le ramènent tout à terre, et on entend ces bruits de godillots et ces danseurs qui claquent comme ça sur le sol, qui est très impressionnant. Et puis on repart dans Babil, il a des mots, et on repart dans un autre solo qui est Avran, et là Avran joue, paraît-il, sur l'horizon, et il est une perche en fait tout le long, et il va manipuler cette perche et chercher à toucher l'horizon ou à se lever, toujours cet épouvantail.
Une perche qui est la ligne d'horizon, en fait, peut-être.
Qui joue dans cette ligne d'horizon, mais on est tellement dans un hiver terre, très 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 sombre. D'ailleurs, il n'y a pas de grosse lumière, il y a une lumière hyper raffinée et une couleur terre avec quelques petites lumières où on voit ces corps habillés un peu en guenillé comme ça, qui essayent de, chacun dans son pan, chacun dans son univers, à essayer de se relever de ce nulle part, en fait. Et c'est très impressionnant. Donc ça, c'est Avran qui est avec la perche, qui a tout cette danse hyper, hyper souple. Et enfin, on termine par Fidèle à l'éclair. Trois beaux titres, je trouve. Babil, Avran, Fidèle à l'éclair. Où là, on voit plus visuellement, plus concrètement l'épouvantail, parce que c'est un homme qui est accroché à l'arrière à un poteau, qui va essayer de s'en sortir. Et là, lui, il part dans une espèce de danse rageuse et de danse de folie, parce que dans cet épouvantail, voilà, il y a les hommes qui rient doucement, qui rient seuls. On est un peu à la limite de la douce folie, ou dans le délire propre à soi d'une solitude à travers champs. On a l'impression vraiment qu'on est au milieu de nulle part. Et la musique qu'on entend ici, c'est justement la musique de Avran, cet homme qui cherche et qui danse avec l'horizon et avec la perche sur le corps. Et c'est la musique est de David Monceau. Il y a tout un travail très raffiné, notamment des lumières, qui est de Florence Richard et de Julie Petit-Étienne, qui donne un espèce de voyage au fond, je sais pas, de la nature humaine ou à travers l'absurde et surtout la solitude des hommes perdus au milieu de nulle part. Alors perdus, est-ce qu'ils sont... C'est pas quelque chose de sombre, on est plutôt dans une exploration un peu humaine qui est très impressionnante.
On écoute quelques secondes. Alors, tu disais qu'il y avait un manque de fluidité, l'unité est là quand même entre les trois spectacles ?
Oui, parce que les personnages peuvent se rencontrer, et je crois qu'elle parle quelque part qu'ils se rencontrent justement dans le spectacle Hummus Vertebra. Ces trois mecs, trois solos, trois épouvantails, on va dire, séparés, qui ont une continuité. Ce qu'il y a, c'est que comme il y a des applaudissements entre chaque solo, parce qu'il faut bien entrer et sortir et enclencher l'autre solo, parce que ça a été créé séparément et joué séparément. Donc voilà, ça c'est juste à titre personnel, parce qu'à un moment donné, on est tellement pris dans ce voyage et dans cette lumière, il y a vraiment tout un truc très sombre et très terrien, ça nous gâche un peu le plaisir d'avoir ces applaudissements, parce qu'on nous rappelle qu'on est dans le spectacle, alors que moi j'étais partie carrément à travers champs, un soir d'automne, au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, elle écrit elle-même dans ses notes d'intention, elle dit « Poète de la nuit à l'angle des champs, un épouvantail, un solitaire soldat de l'effroi qui n'a jamais effrayé personne. » Donc il y a vraiment cette douceur de l'homme perdu. Moi j'ai pensé à Beckett, il y a un de ces personnages, Molloy, qui est beaucoup plus cruel. Ici on est vraiment dans l'exploration et dans le voyage humain. C'est un très beau spectacle et c'est, je trouvais, abordable vraiment pour tous. C'est vraiment un spectacle où il y a une fable qui se perçoit et qui est peut-être proche du théâtre, allez savoir. Et puis alors, des danseurs remarquables, trois hommes avec qui elle a travaillé dans Hummus Vertebra. Un très beau moment à voir au théâtre Les Tanneurs jusque samedi. Babil, Avran et Fidèle à l'éclair de Karine Pontiès. Et juste pour vous signaler, justement, samedi, il y aura une conférence sur la danse, son utilité, comment on, qu'est-ce que la danse aujourd'hui, avec Alain Platel à 15h. Et il faut réserver, évidemment, au théâtre Les Tanneurs, Babi Lavrane et Fidèle à l'éclair, en attendant une petite pause musicale beaucoup plus urbaine, je suppose.
La conspiration.
De retour à la conspiration des planches et on va directement au Richclair pour une autre création d'après les vacances. Et c'est New York de Dominique Breda qu'Elisabeth est partie voir pour nous. Bonjour Elisabeth, on t'a par téléphone.
Oui, bonjour. Alors c'est un voyage tout à fait recommandé puisqu'il s'agit évidemment d'une pièce de Dominique Breda, mise en scène par Dominique Breda. Rappelons quand même que c'est un petit peu l'enfant terrible de nos auteurs. C'est un auteur, photographe au départ, qui se taille une belle réputation et qui écrit plus vite que son ombre et qui, en plus, est monté beaucoup. Donc voilà, c'est un nouvel opus. Alors, il s'agit tout simplement d'une histoire qui pourrait être un peu triste, mais qui se traitait sur le mode d'une comédie, puisqu'il s'agit d'un homme qu'on découvre sur le plateau, un plateau tout à fait dénudé, on ne sait pas très bien où on se trouve. Et cet homme, visiblement, n'est pas bien, il attrape son téléphone, il y a quelque chose qui coince, etc. Arrive un autre homme, petite conversation entre les deux, bon, on sent, c'est laborieux, etc. Et puis, arrive un bruit qu'on n'identifie pas tout à fait au départ, et ça se poursuit comme ça, jusqu'au moment où arrive un chef de gare. Alors là, on est parti dans un dialogue qui a tout l'air de partir vers l'absurde, comme ça, on se dit, tiens, c'est En attendant Godot, qu'est-ce que c'est que ce petit dialogue-là. Et finalement, on se rend compte que les choses sont tout à fait cohérentes, puisque cet homme, en fait, est sur le banc, se sent pas bien, parce que 20 ans plus tôt, son père s'est jeté en dessous des rails du train et qui ressasse et qui ressasse et qui ressasse cette histoire. Et c'est une tentative, en parlant avec ces deux hallucinations, on a donc le père et le chef de gare, de se libérer un petit peu de tout ça. Mais tout ça est fait avec énormément d'humour, énormément de subtilité, très simple, jamais l'écriture ne s'écarte de ce sujet-là, on garde la ligne. Et on a droit à un rôle de composition d'Emmanuel de Conning qui est tout à fait savoureux parce qu'il nous fait un chef de gare tout à fait naïf, à la Candide, qui amène beaucoup de fraîcheur dans ce sujet qui est finalement très lourd. Puisqu'on parle d'un suicide, et qu'est-ce que ça fait comme trace chez ceux qui restent?
Il abandonne le temps de ce spectacle sa structure en sketch, là, comme il faisait dans Purgatoire et dans le groupe.
Tout à fait, c'est vraiment en continu, c'est assez court, c'est 1h05, mais c'est vraiment la ligne droite, la ligne claire, on est parti sur les rails, mais on suit, et le public à la fin, c'est même debout, parce que c'est vraiment très très bien interprété, c'est subtil dans l'écriture. On a cette comédie, mais avec cette petite couche grinçante, cette émotion sous-jacente comme ça, qui fait que c'est une très très belle réussite.
On a l'impression, en tout cas, qu'à chaque fois, c'est une réussite pour Dominique Breda. Est-ce qu'on va arriver à une limite?
Je ne sais pas. Pour moi, il a déjà chuté dans d'autres choses que j'ai pu voir auparavant. Et là, je suis plutôt réconciliée avec lui, parce que justement, il y a cette émotion sous-jacente qui vient nourrir un petit peu la comédie. J'ai un petit peu oublié tous les titres des Breda que j'ai pu voir. C'est vrai qu'il a été lancé, il a démarré avec Emma, bien sûr, qui a fait un tabac tout à fait justifié. Mais là, on est vraiment dans quelque chose où je l'ai redécouvert dans une pureté. Cette façon d'aller jusqu'à l'absurde, comme ça, qui est intéressante. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de déchets. On est vraiment dans ce petit dialogue qui se construit. Et il faut bien souligner qu'il est servi par une très, très belle interprétation d'Alexandre Crépet, Manuel de Comning et Alexis Coslin.
Et c'est lui qui met en scène, hein, Elisabeth.
C'est Dominique Breda qui met en scène, oui, tout à fait.
Voilà, donc New York de Dominique Breda à voir au Richclair. Merci,
voilà,
Elisabeth.
Jusqu'au 14 mai, hein, donc on attend, mais franchement, ne vous en privez pas, c'est une belle petite bulle, ça vaut vraiment la peine.
www.lesrichclair.be. Au revoir, Elisabeth.
Au revoir, merci.
Voilà, alors moi je vous emmène au Hall de Skarbek pour la 7e édition du Festival de la Performance, bien nommé Trouble. Et effectivement, cette année, le thème est la métamorphose de soi, réel ou imaginaire, donc réel, transsexuel ou imaginaire dans le délire travesti ou l'acte carrément travesti. Ce n'est pas qu'un délire amusant.
Un beau thème pour des performances.
Ça fait partie de la performance, c'est quelque chose de très fort. Ce qu'il y a, c'est que Fabienne Verstraten, directrice des Halles, mais et insiste sur l'idée qu'on est ici entre art et politique, et il explique justement par un bel exemple de art et politique, on sent son engagement de Fabien Verstraeten, qui a fait une saison Monde Arabe, donc c'est assez couillu de sa part, et c'est pour un directeur qui affiche un engagement politique aussi fort sur le plan artistique, c'est tout à fait remarquable. Alors justement, pour art et politique et performance, La Métamorphose, elle prenait comme exemple Orette Achri, qui est une performeuse qui, à l'aide de poils et de cheveux, pendant 4 heures, hein, la performance du rationnel, comme on dit, va à un moment donné épingler les barbus du Moyen-Orient et justement du problème israélo-palestinien. Elle va se déguiser, se transformer et épingler tous ces hommes barbus qui finalement dirigent un peu ce conflit au Moyen-Orient. Alors c'est les barbus israéliens comme Lieberman ou palestiniens, des gens du Hamas, Yasser Arafat, et il y a tout un jeu comme ça. Donc elle montrait bien la transformation est dans un terrain clairement art et politique. On a aussi beaucoup d'humour. Par exemple, il y a une performeuse belge, Nadia Schnock, qui va à un moment donné épingler l'icône Mireille Mathieu. Et ces 10 performeuses qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Mireille Mathieu, on a l'impression qu'elle n'a jamais changé cette artiste. Avec la... C'est incroyable. Donc il y a vraiment ce travail là-dessus. Il y a un autre performeur épinglé, c'est Gilles Pastor. C'est un Français. Alors Gilles Pastor, il nous annonce un striptease forain, allez savoir, c'est une des photos du festival qui est la plus surprenante parce que il est mi-maquillé, mi-non-maquillé, et il a un crâne à moitié rasé et il fait tout un travail sur des poules déplumé, et lui-même va se déplumer ou se plumer en cours de spectacle, ça on n'en sait rien. Le spectacle, ça s'appelle Lily Coq à Boche. Autre univers, on a par exemple cet artiste transsexuel turc qu'on ne connaît pas ici, donc c'est quasi un inédit, qui s'appelle Esmeray, et qui va nous présenter un peu son parcours de transsexuel dans une Turquie laïque, hein, mais quand même sous pression d'une société musulmane et patriarcale. Esmeray vient du fin fond d'un village turc, anatolien, à Kars, et elle a dû, à un moment donné, c'est un homme pour faire afficher son identité femme, elle a dû s'exiler à Istanbul et elle explique un peu tout son parcours. Ça, ce sera samedi. Faut savoir que Trouble fait aussi une collaboration avec le festival transgenre de la Bellone, où là on questionne beaucoup plus c'est homme-femme, femme-homme, ce niveau de l'identité finalement sexuelle. Alors dans Trouble, encore à voir, et ça c'est un inédit, c'est des performeurs qui viennent de l'Est, on n'en voit pas beaucoup, et en tout cas qui re-questionnent la guerre en ex-Yougoslavie, on l'a un peu oublié cette pente de notre histoire, donc ce serait très intéressant de voir comment eux retravaillent en tant que performance là-dessus. Et alors au niveau de l'art, juste à épingler, 2 versions d'un ballet russe, La mort du cygne, 2 versions très différentes, une par une Australienne qu'on nous annonce pop, et une autre par une Zimbabwéenne exilée, qui travaille à New York, et elle nous annonce une version post-coloniale, donc il y a beaucoup de curiosité à voir dans ce festival Trouble qui commence aujourd'hui et qui se termine le 1er mai.
Eh bien, le 1er mai se terminera également le festival Courant d'air, 6e du nom, organisé en gros par le Conservatoire Royal de Bruxelles, mais qui invite pas mal d'écoles artistiques comme l'INSAS, d'autres conservatoires, l'École de la Cambre, l'ESSAC et le Centre des Arts Scéniques, pour un festival riche en 50 créations en 5 jours, avec un accès libre et gratuit à toutes les performances et les spectacles qui sont proposés. 150 comédiens, 170 musiciens sortis, ou en tout cas prêts à sortir sans doute de ces écoles. Alors évidemment, Courant d'air, c'est les courants d'art de la scène, c'est du théâtre, de la musique, du jazz, de l'opéra, du cirque, du cinéma, de la performance, bref, on balayera un peu tout ça pour des journées assez bien chargées donc durant ce spectacle, puisque ça commencera à chaque fois vers 15-16 heures avec les premiers rendez-vous, jusque bien sûr plus tard dans la soirée. Alors il y aura des extraits théâtraux de classiques, comme il y aura un Phèdre de Jean Racine, du Philippe Behaït également, du Laurence Vielle, etc., etc. Et en musique, on passera de Bach à des choses plus contemporaines. Il y aura aussi du Baudelaire avec des fonds musicaux qui seront interprétés sur scène. Et ça se passera, c'est intéressant, dans toutes les salles du conservatoire, dans les greniers, dans la cuisine aussi du conservatoire. Ce sera intéressant de voir dans le hall avec plein de choses, l'auditorium évidemment.
Ils ont pris le rythme de leur temps, en sent le conservatoire qui a l'air un peu classique. Bon, voilà, ils ont mélangé d'où ils viennent, c'est-à-dire le répertoire avec des choses très modernes. Laurence Vieille et Beheit sont des acteurs contemporains, mélangeant enfin la musique et les autres disciplines artistiques. Mm-hmm. Ça a l'air très étonnant comme festival.
C'est la 6e édition qui affirme, comme disent les organisateurs, une identité dans l'ouverture. Et c'est peut-être aussi pour ne pas lâcher leurs élèves avec des choses trop anciennes et peut-être les confronter. Parce que bon, quand on sort de ce genre d'école, on n'est qu'au début finalement, non ? Mm-hmm. C'est pas un peu
oui,
ça
oui. Mais on reconnaît quand même les jeux. Hein. Oui. Enfin, on peut encore parfois se tromper, mais on reconnaît un jeu de l'insas qui est beaucoup plus frontal, mm-hmm. un jeu un peu plus classique, quoique maintenant, est-ce que ça va encore dire quelque chose du côté de l'insas ou du côté du conservatoire ou de l'IAD, un jeu un peu plus politique du côté de Liège. Enfin, les écoles ont des identités et c'est fait pour ça aussi. Une école sans identité, ce serait un peu moche. Mais ici, je trouve qu'ils font bien l'ouverture. Et en plus, dans le conservatoire, ils mélangent les autres classes et les autres...
Mais c'est bien, c'est vraiment un beau festival, à mon avis, de rencontres artistiques, pour voir aussi ben, l'avenir de nos scènes, comment ça s'annonce.
Et puis l'ambiance, d'abord c'est gratuit, et puis l'ambiance est toujours sympa de voir ce côté travail scolaire. C'est revenu à la mode il y a quelques années. Moi je me souviens, il y a 10 ans, on envoyait l'insas au Varia, des choses comme ça. Et depuis 3-4 ans, ça revient. La Balsamine accueille dernièrement l'insas, Liège accueille le conservatoire de Liège, et les écoles refont tout doucement leur mini-festival ou leur porte ouverte intelligente. C'est apprendre, c'est toujours l'ambiance, c'est toujours assez sympathique.
Et c'est bien aussi de donner à ces étudiants autre chose que du scolaire et pour des points, on va dire, hein, comme ça, pour une réussite. C'est donc le programme complet, je ne peux pas vous le décrire, il est accessible sur le site www.conservatoire.be, le festival Courant d'air qui se déroule du 27 avril au 1er mai 2011. Évidemment.
Voilà, donc le théâtre, ça commence dès l'après-midi ce week-end. Alors, ainsi se termine la conspiration des plans. J'en ai parti il y a voir Occident, un théâtre, un duo choc sous fond de fascisme dans les bars d'Occident. On est parti à New York de Dominique Preda, voir un peu dans les champs égarés trois épouvantails tenter de se lever et de devenir homme avec les solos de Karine Pontiès. On vous a parlé de ce festival Courant d'air des écoles du conservatoire de Bruxelles, gratos tout le week-end, 150
spectacles. Oui.
Une cinquantaine de spectacles. Et enfin, du festival Trouble de la performance, centré cette année sur la métamorphose de soi. Tout ça jusqu'à samedi. Programme chargé.
Et il sera encore plus la semaine prochaine, puisque là, on sera vraiment dans le gros des créations de cette rentrée. On annoncera sans doute aussi le Kunsten Festival des Arts qui s'annonce. Belle semaine
et
à vous.
On retrouve Catherine Macrel la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, bonne planche et à bientôt.
Et le podcast de cette émission, d'ici la fin de la semaine, sur demandezleprogramme.be.
La constelación.